Chapitre 8. Comme une corne sur le front d'une antique bête, la tour semblait jaillir du sol rocheux pour se lancer à la conquête du ciel. Sur toute sa surface, à l'extérieur, des symboles circulaires ou linéaires s'entrelaçaient pour former un réseau dense de runes s'élevant jusqu'au pinacle qui dominait le quartier résidentiel que les invités venaient de traverser.
« Esprit bien-aimé !»
souffla Nathan, les yeux levés.
« Un sort de protection est intégré à la tour. Cet édifice est imprenable. »«
C'est ce qu'on en dit, » confirma Avery. « Comme nul n'a jamais franchi nos fortifications, ça reste à démontrer. »
À part la tour et l'étonnante pyramide en escalier, un observatoire astronomique aurait volontiers parié Nietzsche, la haute ville était semée de villas somptueuses et de petits palais. De là, on avait une vue fantastique sur le reste de la cité, avec ses jardins suspendus, ses fontaines, ses châteaux d'eau, ses citernes brillantes et sa multitude de toits émaillés qui composaient un arc-en-ciel géant.
« Vos défenses m'impressionnent, » avoua Nietzsche. « Pour qu'une cité survive longtemps, il faut que ses habitants gardent en permanence à l'esprit que leurs ennemis rêvent de la détruire. »
Avery s'engagea sous l'arche d'entrée de la tour et ses invités le suivirent. À l'intérieur, Nietzsche eut le sentiment que la température avait baissé de plusieurs degrés. Après avoir essuyé la sueur qui lustrait son front, Bannon repoussa ses cheveux en arrière et souffla.
« Il fait très frais ici. »«
La volonté des sorciers, » dit Avery. « Vous remarquerez les glyphes sur les murs. »
Les curieux symboles gravés dans la pierre vibraient de magie. Surprise, Nietzsche constata que c'étaient les points de concentration d'un sortilège passif.
« Une magie de transfert ?»
lança-t-elle à voix haute.
« C'est ça !»
confirma Nathan.
« Les glyphes absorbent le surplus de chaleur dans l'air et le transfèrent ailleurs, peut-être aux cuisines ou dans les cheminées. »
Sans infirmer ni confirmer, le capitaine guida les visiteurs jusqu'à l'escalier central, une spirale géante de marches taillée dans une grande variété de granit et de marbre. La balustrade et la rampe, richement ouvragées, représentaient des anguilles qui ondulaient sur toute la hauteur de l'escalier. Après avoir dépassé deux paliers, le petit groupe en atteignit un troisième qui donnait sur une grande salle. Tout en suivant le capitaine, Nietzsche avait aisément percé au jour les intentions psychologiques des architectes. En gros, c'étaient les mêmes que celles de Jagang, enclins à bâtir un peu partout de gigantesques structures. L'escalier, les paliers, la grande salle, tout cela visait à ralentir les visiteurs, souvent venus se plaindre ou réclamer une faveur, histoire que leur confiance et leur détermination aient fondu comme neige au soleil au moment où ils rencontraient enfin leurs dirigeants. Qui que soient les chefs d'Ildakar, Nietzsche n'avait aucune intention de se sentir toute petite face à eux. Dans la formidable salle, la lumière entrait à flots par les fenêtres en forme d'arche qui monopolisaient quasiment tout un mur. À travers, on avait une vue plongeante sur la ville et ses innombrables merveilles. Sur les dalles en marbre bleu poli au point d'évoquer la paisible étendue d'une mer d'huile, les bottes du capitaine produisaient un vacarme infernal. Comme une île au milieu de l'océan, une estrade supportait deux trônes occupés par un couple. Au niveau du sol, une table ovale entourée de bancs de pierre devait accueillir les membres du conseil les jours de séance plénière. Avery monta sur la plateforme et mit un genou en terre, sa cape ondulant sur ses épaules et son dos.
« Sovrena Tora, sorcier en chef Maxime, je vous amène des visiteurs venus de Dara, une lointaine terre située de l'autre côté du linceul. »
Grande et mince, la Sovrena Tora était si belle qu'on aurait cru avoir affaire à une poupée de porcelaine. Le menton pointu, la bouche en cœur, des yeux verts hypnotiques, elle portait ses cheveux en chignon, le plus élaboré que Nietzsche, pourtant familière du grand monde, est vue de sa vie. En soie bleue, sa robe fine ourlée de fourrure dissimulait son corps avec l'intention secrète de tout en révéler. Tenant plus de la toge que de la robe, le vêtement partait de son épaule gauche, s'enroulait autour de son opulente poitrine et, au niveau de ses hanches, se transformait en une cascade de tissus caressant ses cuisses, ses genoux et ses chevilles délicates. L'homme assis près d'elle, sans doute le sorcier en chef Maxime, n'avait rien à lui envier en matière de beauté.
De courts cheveux noirs, les sourcils épais, il arborait un bouc du plus bel effet. Adossé à son trône, un sourire nonchalant sur les lèvres, il avait les jambes croisées comme s'il était dans son salon. Son pantalon noir semblant taillé dans de l'obsidienne plutôt que dans une longueur de soie, il portait une chemise à demi ouverte, sans doute pour mieux mettre en valeur le pendentif en améthyste niché sur l'écrin de poils noirs de sa poitrine musclée. Tenant la promesse faite à Richard, Nietzsche prit les choses en main en lieu et place de l'ambassadeur itinérant. Consciente de devoir s'imposer d'emblée, elle évita délibérément de s'agenouiller.
« Ayant entendu parler de votre légendaire cité, nous venons vous annoncer l'accession au pouvoir du seigneur Ral, prélude à l'âge d'or qui attend le monde. »
Thora redressa le dos, ignora superbement Nathan et Bannon, riva son regard dans celui de Nietzsche et parla d'un ton cassant.
Nous vous souhaitons la bienvenue. Mais Ildakar est une cité indépendante. Le monde extérieur ne nous intéresse guère.
En revanche, intervint Maxime, le monde extérieur s'est toujours intéressé à nous. Ma chère Thora manque de curiosité. Il se leva, souple comme un chat, et avança vers Nietzsche. Oui, bienvenue à Ildakar. Dans notre cocon douillet, nous adorons recevoir d'intrépides explorateurs venus de contrées hostiles.
D'un geste circulaire, le sorcier désigna la direction générale où se trouvaient les fameuses contrées. Alors que Bannon ne bougeait pas, visiblement dépassé par tout ça, Nathan n'hésita pas à aller rejoindre Nietzsche. Après avoir tapoté le jabot de sa chemise et tiré sur sa cape, une louable tentative pour se rendre présentable, il sourit et se lança.
« Nous avons des trésors de connaissances à partager, et ces échanges seront bénéfiques aux deux parties. »
Incertain, peut-être même nerveux, le vieil homme attendit la réaction de ses interlocuteurs. Dans cette partie, se souvint Nietzsche, il jouait très gros. Son courage retrouvé, Bannon vint rejoindre ses amis. Avant que Nietzsche ait pu lui faire signe de se taire, il s'empressa de gaffer.
« Nous avons vu votre ville depuis les hauteurs de Colladère. Venu d'au-delà des montagnes avec mes amis, je suis originaire de Chiria, une île. Vous en avez entendu parler ?»«
Les îles sont au milieu de la mer, » dit Thora.
« Et la mer se trouve très loin d'ici, en aval du fleuve et au-delà de son estuaire. »
« N'est-ce pas le moment idéal pour en apprendre plus, très cher ?» intervint Maxime. « Le savoir est une forme de pouvoir. »«
Du pouvoir, nous en avons assez. »
lâcha Thora. « Non, il en faut toujours plus. »«
Pour être en désaccord sur tout comme ça, »
lança Nathan, jamais à court de trait d'esprit.
« Vous devez être marié femme, je me trompe. »«
Depuis près de 2000 ans, oui. » répondit Maxime. Longtemps avant l'arrivée du général Outros, ce conquérant de paille.
Thora ne broncha pas. À l'évidence, elle avait depuis longtemps cessé de compter les années de mariage et appris à se résigner. Sur un côté de la salle, une porte s'ouvrit et 6 sorciers entrèrent en trombe. 5 sorciers et une magicienne, plutôt, tous en tuniques longues et lestées d'amulettes et d'autres signes ostentatoires de leur position. Le capitaine Avery se leva et recula.
Le Douma des sorciers vient d'arriver.
Merci de l'avoir convoqué, capitaine,
dit Thora sans se lever de son trône.
Les membres du conseil doivent entendre ce que nos invités ont à dire.
La souveraine marqua une courte pause.
En supposant que ça ait un sens.
Maxime descendit en hâte de l'estrade et gagna la longue table où ses 6 collègues étaient en train de prendre place. Écartant les bras, il se tourna vers les 3 visiteurs.
« Souffrez que je vous présente les autres grands sorciers d'Ildakar. Damon, Elsa, Quentin, Yvan, André et Ren. »
Nathan salua tout ce petit monde, puis plissa le front perplexe.
« Un nombre pair de conseillers, c'est parfois délicat quand il faut qu'une majorité se dégage. »
« Pas tant que ça. »
siffla Thora.
Le conseil comptait 7 membres jadis, mais une magicienne a voulu se dresser contre la souveraine. Une très mauvaise idée.
Maxime lissa son bouc noir.
Pauvre Lani, ça ne lui a pas réussi.
Comme vous pouvez le voir. »
Le sorcier en chef désigna une statue perchée sur un socle face au mur constellé de fenêtres. Une grande et fière femme, parfaitement préservée, la colère et l'indignation toujours visibles sur son visage. Nietzsche remarqua qu'elle avait les doigts repliés comme pour lancer un sort, mais on l'avait pétrifiée avant.
« Cet événement regrettable est vieux d'un siècle, » précisa Thora. « Depuis, plus personne ne s'est opposé à moi. »
« Sans Lani, on s'en est plutôt bien sorti, non ?»
intervint le sorcier appelé André. Le crâne tondu, il portait une barbe tressée qui se dardait comme une lame sous son menton.
« Chacun dans son domaine d'expertise, nous avons tous une mission à accomplir à Ildakar. »
Regardant alternativement Thora et Maxime, Nietzsche crut voir l'épais rideau qui les séparait en permanence. À son corps défendant, elle ne put s'empêcher de comparer leur froideur à l'amour qui unissait Richard et Callan. La Sovréna et son époux, à l'évidence, n'étaient pas ou plus liés ainsi.
« 15 siècles de paix !»
dit Elsa, une solide matrone en tunique violette.
« Jadis, nous nous sommes unis pour défendre Ildakar, et ce fut un succès. Aujourd'hui, la cité est exactement comme nous voulons qu'elle soit. »«
Comme nous le voulons, oui. »
approuva Thora.
Après avoir protégé Ildakar, nous avons fondé la société parfaite dont nous rêvions.
Nous avons vu l'armée dehors, des centaines de milliers d'hommes pétrifiés, un sacré exploit magique. Ces soldats sont ici depuis 15 siècles.
S'en prendre à notre ville fut la plus grande erreur du général Outros, dit Maxime. L'empereur Kourgan, ce crétin, pensait qu'avoir une puissante armée suffisait pour conquérir le monde et le piller.
Il tira sur les pans de sa chemise comme s'il avait soudain très chaud.
Mais une force conventionnelle, même de cette taille, ne faisait pas le poids face aux sorciers d'Ildakar.
Le sorcier en chef commença à faire les 100 pas devant les membres du conseil.
Pendant que Croc de Fer se prélassait dans son palais, laissant Outros se battre à sa place, « nous avons bâti des défenses qui marquèrent la fin du plus grand général de l'histoire. »
Comme pour faire de l'ombre à son mari, Thora reprit le récit au vol.
« Les troupes d'Outros venaient de montagne. Selon nos éclaireurs, il était à la tête de 500 000 hommes, mais de ce nombre, il faut retrancher ses pertes avant le lancement du siège. Cela dit, en campagne, comment nourrit-on une armée de cette taille ?»«
Ou même moitié plus petite, »
précisa le conseiller Damon. Les cheveux bruns, ce colosse portait une moustache tombante ornée d'une perle à chaque extrémité. Bâti en force, les cheveux noirs et la barbe en bataille, Ivan se trémoussait sur son banc comme s'il cherchait quelque chose à briser en deux. Sur sa peau de bête ocre, la magicienne remarqua d'étranges symboles. Troublée, elle s'aperçut que ce pourpoint ressemblait beaucoup au pelage marqué au fer de Mra.
« En les pétrifiant !» grogna Ivan. Nous avons fait une faveur à ces hommes. Nous aurions dû les laisser crever de faim ou leur transmettre toutes nos maladies, puis les regarder mourir d'inanition en riant comme des gosses bien à l'abri de notre linceul.
En nous unissant, un seul coup a suffi pour en finir avec eux.
Thora ne manifestait toujours pas l'intention de se lever.
Lancer ce sort fut une expérience fabuleuse. Bien sûr, il y eut un coup.
Thora regarda son époux avec le plus grand respect.
Le sorcier en chef est le point focal du sort de pétrification. C'est Maxime qui a concentré la magie et transformé tous ces salauds en pierre.
Le sorcier en chef rayonna.
N'ai-je pas toujours été le meilleur sculpteur d'Ildakar? Cela dit, ma tendre épouse est également très puissante, comme la pauvre Lani a payé pour la prendre.
Après avoir empêché le siège et neutralisé l'armée d'Outros, continua Thora, nous savions que ce n'était pas terminé. Avide de vengeance, Kourgan pouvait à tout moment lever une nouvelle armée, sinon un autre despote risquait un jour ou l'autre de s'en prendre à nous. Nous en avions assez de cette violence,
conclut Thora, rouge de colère.
Tout le monde s'en lassait, en effet, dit Maxime avec un grand sourire pour Nietzsche.
Aussitôt celle-ci se raidit.
Il ne comptait quand même pas lui faire sa cour.
Du coup, continua-t-il, nous nous sommes retirés du monde.
Après avoir conçu les sortilèges dont nous avions besoin, nous avons étendu sur Ildakar un linceul qui nous enveloppe dans un cocon de sécurité et résiste à tout depuis un peu plus de 1500 ans. Satisfait, Maxime se frotta les mains. Croisant langoureusement les jambes, Thora fit chanter la soie bleue de sa toge.
Du coup, nous avons eu tout loisir de fonder puis de développer notre société parfaite.
Quand la Sovréna baissa les yeux sur ses visiteurs, les dévisageant tour à tour, son sourire rappela à Nietzsche la lame affûtée d'un couteau de boucher.